Bien, bonjour à tous. Je suis donc, comme Richard vient de le dire, anthropologue. Je suis directrice de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement. Je pense que certains d'entre vous connaissent cet organisme qui travaille spécifiquement sur les pays du Sud, Afrique, Asie, Amérique latine. Donc, je suis rattachée à un laboratoire domicilié à Paris-Descartes. J'ai entendu ce matin la jeune personne qui parlait des sages-femmes, qui se référait à une enquête de l'IRD déjà, de Jaffré et Sardan sur les problèmes de gynécologie. Je la cherche, mais je ne les vois pas. Donc, nous étions plusieurs chercheurs. On a déposé, je vous explique un peu le contexte. Ah oui, il faut que je pense à ça. Voilà. Nous étions plusieurs chercheurs à déposer un programme de recherche sur la stérilité et le recours à l'AMP dans le contexte de la mondialisation. 5 équipes, comme vous le voyez. Une équipe qui a travaillé à Pretoria, en Afrique du Sud. Moi qui ai travaillé à Douala, au Cameroun. Une collègue de l'Université de Genève qui a travaillé à Ouaga et une qui a travaillé en Île-de-France auprès des populations migrantes qui ont recours à l'AMP. Donc c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche dans le contexte de recherches qui sont menées sur les Suds. Alors, avant d'aborder ça, il faut que je vous explique quand même la difficulté pour des anthropologues à travailler sur ce sujet, puisque, évidemment, le but est de travailler auprès des médecins dans des cliniques, puisque l'idée est de travailler sur l'émergence de l'AMP. Là, pour l'heure, c'était en Afrique. Et il faut dire qu'on a été vraiment confrontés à une grande difficulté. Même j'avais 2 étudiantes aussi, une qui travaillait sur le Sénégal et une au Gabon. Au Gabon, elle est arrivée au moment où la responsable d'une clinique était mise en prison parce qu'elle était accusée d'avoir tué une femme à la suite d'une anesthésie, d'un accident d'anesthésie. Et puis au Sénégal, les médecins ont refusé de travailler, qu'elle travaille dans la clinique. De mon côté, j'ai essayé de travailler au Burkina, c'est pareil, un responsable de clinique a refusé. En me disant qu'il fallait que je fasse au préalable une enquête épidémiologique sur la stérilité au Burkina Faso. Donc celle qui a travaillé à Ouaga, en fait, elle a travaillé sur les échecs de PMA et puis sur l'alternative à la PMA face à ces difficultés. Donc moi, je me suis tournée vers un responsable de biologiste en France qui forme les biologistes en Afrique, et qui m'a introduit auprès de la clinique au Cameroun, où là, j'ai eu toute facilité pour travailler auprès des médecins, auprès des femmes. Je me suis quand même aperçue que ceux qui faisaient de la résistance à l'anthropologie étaient ceux qui communiquaient rien de leurs résultats, où il n'y avait pas d'annonce officielle de nés vivants, de naissance, disons. Et ceux qui, au contraire, avaient des résultats étaient plus accueillants vis-à-vis des anthropologues. Je ne sais pas s'il faut faire une relation de cause à effet, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Donc, c'est intéressant au terme de cette journée, parce qu'on s'aperçoit de la répétition dans les interventions des uns et des autres, des difficultés de ces sujets à passer dans les médias. Je pense que la difficulté à exprimer tout ce qui se passe au niveau de ces naissances, de ces grossesses, est liée à une rétention à vouloir communiquer dans un contexte de libéralisation de la pratique. Alors le contexte social, il a été évoqué, et puis vous le connaissez sans doute, parce que beaucoup d'entre vous ont travaillé en Afrique, si j'ai cru comprendre. Les personnes stériles, Yann ce matin en a parlé, sont confrontées à la stigmatisation, sont confrontées à une violence qu'on imagine, pour ceux qui ne connaissent pas, difficilement. C'est-à-dire elles sont répudiées, elles peuvent avoir une coépouse qui est imposée par les belles-mères. On a évoqué la terreur des belles-mères, mais elle existe vraiment. C'est-à-dire, les alliés matrimoniaux ne supportent pas qu'il n'y ait pas de descendants après qu'ils aient payé pour qu'il y ait une femme dans la famille. Donc il y a une pression quelquefois. J'ai eu affaire à des couples qui étaient aimants avec un homme qui aimait sa femme et qui subissait une pression terrible de la part de sa mère ou de sa famille pour abandonner cette femme qui n'avait pas d'enfant, sans chercher même à savoir si ce n'était pas lui qui était à l'origine de la stérilité du couple. Parce que dans bien des cas, quand l'homme est stérile, je fais des digressions mais je ne peux pas m'en empêcher, dans bien des cas, quand c'est l'homme qui est stérile, la femme porte la stérilité de l'homme. Elle cache le fait, elle laisse croire que c'est elle qui est stérile, et alors que c'est l'homme qui l'est, et elle endosse la stérilité de l'homme. Donc on a beaucoup parlé des femmes, et je ne sais plus qui a dit ce matin qu'il y avait aussi la nécessité de parler des hommes, et parler de la stérilité des hommes, c'est aussi être dans la question du genre et de l'empowerment des femmes. Parce que les femmes assument beaucoup de choses qui sont en fait à l'origine causées, j'aime pas trop, mais à l'origine venant des hommes. Les risques de répudiation, d'accusation de sorcellerie aussi. Hein, donc il faut porter tout ça. Alors c'est un sujet qui ne concerne que les classes moyennes, un revenu élevé. Alors là aussi c'est intéressant pour la sociologie ou l'anthropologie de définir qu'est-ce qu'une classe moyenne. Parce que pour nous, en France, si je dis classe moyenne, tout le monde va repérer un peu de quoi il s'agit. En Afrique, c'est plus compliqué, parce que vous avez, alors, les classes élevées, OK, mais vous avez des classes moyennes qui ont pas mal d'argent, mais vous avez des petites classes moyennes aussi, des professions où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais où les gens ont quand même acheté un petit terrain, où ils ont une voiture, ils ont des biens de consommation. Et donc, quand on dit, bon, ce type d'AMP libérale, elle ne s'adresse qu'aux riches, c'est vrai par rapport aux plus précaires en brousse, je puis dire, mais ça concerne aussi des gens qui sont prêts à tout vendre, c'est pour montrer la détresse de ces personnes. Ils vendent le terrain, ils vendent la voiture, ils vendent la télévision, ils vendent tout pour payer 2 à 3 000 euros la PMA. Et puis quelquefois, 2, 3 PMA. Parce qu'en plus, on ne va pas parler de ça. Donc, on ne peut pas demander, la belle famille, n'en parlons pas, puisque je vous ai dit que la femme risque de se faire renvoyer si elle en parle. Donc, on ne peut pas chercher de l'argent du côté de la belle famille. Par contre, dans les différentes enquêtes, on a constaté que les gens se tournent vers les frères et sœurs. Il y a de la solidarité vers les germains, mais il n'y a pas de solidarité vers les belles familles. Hein. Donc, les économistes qui travaillent en Afrique disent, finalement, ces classes moyennes-là, c'est des ni pauvres ni riches. Hein, donc il ne faut pas avoir des stéréotypes sur les classes moyennes, de penser que c'est des gros riches, ce n'est pas vrai. C'est vrai que dans la population que j'ai enquêtée, j'avais aussi bien une magistrate, mais j'avais aussi des commerçantes, des petites commerçantes, et j'avais aussi des secrétaires, et même j'avais des gens plus modestes, des artisans aux revenus très très modestes. Donc, pas de classification stéréotypée. Alors, je reviens aussi sur cette absence de statistiques. Vous savez, il y a des travaux de démographie qui datent de très longtemps, et puis de médecins aussi. Il y avait une médecin très célèbre qui s'appelait le docteur Anne Rethel-Laurentin du CNRS, qui avait travaillé aussi comme anthropologue avec Denise Paulm. Et elle a travaillé en République centrafricaine sur la population des Nzakara, où elle a évoqué le cycle infernal de la stérilité, c'est-à-dire je suis stérile, mon mari me renvoie, il prend une autre femme, et il y a une propagation des MST. Donc MST propagé, qui dit MST dit infécondité, dit infécondité, je reprends une autre femme, et donc il y a un cercle vicieux de cette approche-là, de ce problème-là, ce qui va renvoyer dans la conclusion que j'anticipe brièvement sur une approche en termes de santé de la reproduction et de plus qu'une approche resserrée sur la stérilité. Donc cette absence de statistiques, les démographes ont une difficulté notoire à savoir quel est le taux de stérilité exact. Les démographes parlent de 30% pour l'Afrique centrale, un petit peu moins pour l'Afrique de l'Ouest. les choses ont aussi bougé avec l'arrivée du VIH et tout ça. Enfin bref, les estimations vont de 15 à 30%. Et encore une fois, on a vu ce matin la nécessité d'avoir des données. Je me réfère à M. de Bernis du FNUAP. Et vraiment, c'est une recommandation qu'il faut répéter de manière incessante. Donc, cette invisibilité, si je puis dire, de l'infécondité renvoie à ce que Yann a expliqué tout à l'heure sur la vision d'une Afrique basée sur le danger d'une surpopulation. Une vision un peu néo-malthusienne qui ne permet pas en plus la prise en compte de la souffrance individuelle. La souffrance individuelle, c'est comme si elle n'était accordée qu'aux riches ou qu'aux gens du Nord. Mais la souffrance individuelle au Sud, on en parlera après quand ils auront un système de santé parfait. Ben non. Non, il faut prendre en compte la souffrance des gens et la souffrance individuelle et ne pas avoir cette vision. C'est-à-dire, c'est comme si, ben, pourquoi vous allez travailler sur des sujets, ce qu'on nous a sorti, alors qu'ils font tellement d'enfants. Mais c'est une vision à un terme de population, pas à un terme de, pas à une échelle individuelle ou familiale. Donc il faut dépasser et sortir de cette vision stéréotypée aussi de l'Afrique qui ne prend pas en compte la souffrance des sujets et qui est une mauvaise approche en plus, comme l'a bien démontré Yann tout à l'heure. De fait, toutes ces questions ne permettent pas de constituer que l'infécondité sera constituée en problème de santé publique. Je vous ai dit, argument d'une surpopulation, où seule la planification et les politiques de population servent de socle à la santé de la reproduction. Puisque, suite à la conférence du Caire, aux OMD, et on a bien vu tout ça ce matin, donc ce n'est pas la peine d'y revenir, on a vu l'influence des organismes internationaux, et c'est vrai que quand il n'y a pas une pression des organismes internationaux, l'entonnoir a du mal à descendre, quoi. Donc, dans ce contexte, c'est en dessous, dans ce contexte, l'AMP, finalement, ne pouvait se développer que dans le secteur privé. Puisque je vous rappelle qu'à partir de la fin des années 90, il y a eu une libéralisation de la médecine en Afrique. Et du coup, puisque avant il n'y avait pas de clinique libérale comme ça. Moi, j'étais en Afrique à ce moment-là. J'ai vécu au Burkina de longues années, pratiquement 11 ans. Mais pendant la période sankariste, où j'y étais, je suis partie justement en 91, je suis revenue en France. Et là, avant que je parte, j'ai vu l'explosion des cliniques où il y avait qui un radiologue, qui un neurologue, mettait un peu d'argent de côté, avait acheté un terrain qu'il avait, que la famille avait depuis 15 ans, et puis qui installait une clinique, et c'est encore maintenant ce qui se fait. Mais bon, OK, mais à ce moment-là, ça crée des émergences comme ça qui donnent un terrain favorable à l'AMP qui s'est ouverte que dans le libéral. Alors, comment, quand on travaille là-dessus, en tant que sociologue ou anthropologue, comment on cherche à avoir des données existantes avant d'arriver à la clinique ou même pendant qu'on est à la clinique? Alors, ce qui est intéressant, parce que ça pose aussi la question et des protocoles et des règles éthiques. Enfin, toutes ces informations qui nous manquent cruellement. S'est créé un groupe interafricain quand même de tous les spécialistes de l'AMP. Ils se sont regroupés dans un centre qui s'appelle le GIRAF, groupe interafricain d'études de recherche et d'application, qui à ce jour créé en 2011 avec 5 congrès. À ce jour, moi, j'ai été à 2 d'entre eux, avec la volonté, disent-ils, de capitaliser les données. Bon, à l'heure qu'il est, en 2016, c'est encore assez difficile d'obtenir des données par le site internet du groupe, mais il y a quand même une volonté, et une volonté de certification, une volonté de mettre les règles de bioéthique, parce qu'il faut dire que dans les pays francophones, beaucoup se réfèrent aux lois de bioéthique françaises. les pays anglophones, c'est un peu ça aussi, chacun se réfère un peu au lieu où il a été formé. Il y en a qui ont été formés à Bruxelles, il y en a d'autres qui ont été formés au Secos à Lille, il y en a qui ont été formés, alors chez les anglophones, c'est d'autres types de formations, et ils vont s'appuyer dans les pays où ils ont été formés pour référer leur protocole et règles éthiques. Mais il n'y a pas, rien n'est homogène. Donc c'est intéressant de voir ça, et il y a une césure considérable entre les francophones et les anglophones. Alors, on s'est tourné aussi vers l'ICMART, qui est International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology. Là aussi, c'est pareil, une grande difficulté à obtenir des données pour l'Afrique. Je me concentre uniquement pour l'Afrique. Pour les autres pays du monde, il n'y a pas de problème. Mais pour l'Afrique, on a obtenu dans 5 pays ouest-africains, Cameroun, RCI, Bénin, Togo, Mali, des données. Pour les autres, où moi je sais qu'il y a des cliniques, il n'y a pas de données, il n'y a pas de communication. Donc les données que j'ai recueillies, pour 6 centres en 2011, 897 ponctions pour 196 naissances. En Afrique du Sud, pour 15 centres, sur les 20 estimés dans le pays en 2011, 4861 ponctions pour 1368 naissances. Donc là aussi, pourquoi les pays où on sait... Pour le Cameroun, il y a deux cliniques, donc ils additionnent par pays parce qu'ils ne veulent pas justement alimenter la concurrence qu'il y a entre les pays, entre les cliniques. Donc ils préfèrent des données, ils ont raison, et des données nationales en plus sur le sujet. Mais je sais qu'il y a des cliniques dans d'autres pays, mais qui ne déclarent rien à l'ICMART. Alors les Chreux, vous connaissez. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler davantage, Yann l'a fait très bien, et il vous a expliqué qu'il y avait des essais en cours en Ouganda et surtout au Ghana. Donc on attend avec impatience les naissances. Alors, il faut que je vous dise quand même qu'il y a entre les Chreux et les libéraux une tension. Je veux dire, il y a une... ce que nous, on appelle en socio-anthropologie une controverse, un peu. Parce que d'un côté, il y a la défense du système low cost, et puis vous l'avez compris au terme de cette journée aussi, et puis de l'autre, la médecine libérale. Donc, moi, quand j'ai organisé à Paris-Descartes un colloque en 2013, il y avait les deux qui étaient représentés, j'ai senti à quel point la tension était importante. Alors, on est dans un paysage. Ah oui, ça, je vous avais. Ça, c'est les premières naissances. Alors, ce que je peux vous dire, je le vois là, alors que j'ai encore quatre. Oula. Oula là. Bon, alors, je vous laisse lire ça. Je voulais juste vous dire, parce que dans le style, c'est difficile de voir les informations. Il y en a, on ne sait pas si c'est des tentatives ou des naissances. Et arriver à avoir les résultats, c'est pour ça que quand il donne une date, je m'empresse de la citer, parce que généralement, c'est que c'est vraiment une naissance. Mais quelquefois, ils nous disent, oui, il y a des naissances, mais on n'arrive pas à savoir quand, quel jour, etc., puisqu'il n'y a rien d'officiel. Alors, j'ai fait un retour pour la France, brièvement, je me suis aperçue qu'en France... Quand il y a eu les premières naissances, avant qu'il y ait des articles scientifiques, c'est la presse voilà. Donc la presse donne une validité sur la naissance, avant qu'il y ait la donnée scientifique. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pareil là, donc prenons en compte les articles Internet, les articles de presse, etc. Puisque, mais alors là, difficulté d'avoir... Donc, je vous ai laissé. Là, je vais aller vite parce qu'il me stresse là, en étant là. Alors, on a parlé du transnationalisme tout à l'heure et puis des motifs de déplacement. Parce que finalement, pour résumer, et dans cette démarche de mondialisation, on s'aperçoit que les médecins circulent dans le cadre de leur formation. Les gamètes même circulent, les savoirs circulent, les savoirs médicaux, Les patients circulent parce que quand on sait qu'on est dans un pays où il n'y a pas de clinique, si j'habite en Guinée, ben je vais aller au Sénégal. Si j'habite, par exemple, au Gabon quand j'ai peur parce que je sais que la femme a été accusée et puis que même il y a des, je ne veux pas que mon voisin sache, etc. Je préfère partir au Cameroun, faire ma grossesse et revenir quand j'aurai l'enfant, etc. On ne verra pas tout ce qui peut se passer. Donc l'idée, c'est qu'il y a une importante circulation des personnes, des biologistes, comme je vous dis, et de tout le monde. Alors, pour l'Afrique, c'est un modèle qui est uniquement fondé sur l'hétéronormativité. L'homosexualité est un délit dans la plupart des pays. Dans certains cas, on les met en prison. Donc, il n'est pas question de faire une AMP, à l'exception de l'Afrique du Sud, où les mariages des femmes sont autorisés depuis 2006. Alors, ça, il y a l'exigence, quand j'ai dit du mariage, c'est plutôt de l'union. C'est un peu, du moment qu'il y a, un peu comme ce que disait madame, du moment qu'on sait qu'ils vivent ensemble, etc. Ceci dit, en Afrique, il y a quand même un Camerounais qui m'a dit « Génial, l'AMP, enfin, les Africains vont pouvoir faire des enfants à leurs femmes sans vivre avec elles. » Alors, parce que beaucoup de couples ne vivent pas forcément ensemble régulièrement. Il y a les problèmes professionnels, je suis mutée à tel endroit, il y a des problèmes de j'affine ma formation professionnelle, je suis des cours, je suis obligée de partir là-bas. Et puis, par exemple, mon étudiante au Sénégal, elle avait des femmes qui consultaient pour infécondité, alors que le mari était un migrant. Donc, quand on s'interrogeait, on s'apercevait que c'était une infécondité sociale, si je puis dire, hein, qu'ils se voyaient très peu. Donc, il y a des tas de considérations. Les couples bougent énormément, beaucoup plus, je pense, qu'en France. Mais ça repose quand même, c'est-à-dire que pour le médecin, c'est le couple qui compte. Même en situation polygame, on va revoir, c'est une consultation, c'est l'homme et la femme, et puis ce sera l'homme et la femme, s'il y a plusieurs femmes. Alors, on a pas mal de couples plutôt âgés, pour les raisons dont parlait Richard, mais aussi de parcours de soins, mais aussi parce qu'il y a énormément de stérilité secondaire. On retrouve les mêmes causes évoquées ce matin, c'est-à-dire les trois causes principales, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, les hémorragies du postpartum et puis les avortements clandestins. C'est toujours dans le dossier médical, moi, que le médecin me donnait, c'était à chaque fois prioritairement ça qui revenait. Donc, et puis il y a beaucoup de remariages. Et l'idée, c'est que si je me remarie, en plus, si je suis en zone patrilinéaire, en famille patrilinéaire, l'enfant appartient à mon mari. Donc, si je me remarie, l'enfant reste avec le père et je repars à la case départ, quoi. Et donc, il faut que je prouve à nouveau que je suis féconde. Donc, il faut à nouveau... Alors, dans mon enquête, l'âge moyen sur 75 couples, l'âge moyen des hommes était de 43 et l'âge moyen des femmes, 35, ce qui n'est pas tellement élevé par rapport à ce qu'on peut dire, mais j'avais quand même beaucoup de stérilité secondaire. Alors, je ne vous parlerai pas des modifications de la parentalité, parce que ça fait partie aussi du discours, mais pourquoi vous voulez aller à l'AMP, puisque vous pouvez adopter un enfant, il y en a tellement d'enfants chez vous, donc pourquoi ne pas en adopter? Alors, il faut dire que l'adoption, le confiage, oui, ce qu'on appelle nous le confiage en anthropologie, c'est-à-dire qu'on remet les plus précaires, les plus difficilement, ceux qui n'ont pas tellement accès à la santé, à l'éducation pour les enfants, vont confier à des plus riches ou ceux qui sont près des écoles, en ville, etc., vont confier à un enfant. Donc ça, on appelle ça le confiage. Mais moi, j'ai été à une consultation où il y a une femme qui a dit, vous voyez, docteur, la petite là, qui a 4 ans là, eh bien maintenant, je veux la mienne. Donc devant... devant la petite. Donc, faut dire, ça montre ce besoin impératif d'avoir un enfant biologique, même s'il vient d'un don. Donc il y a l'adoption plénière est souvent mal vue de la grande famille, puisqu'on considère que l'enfant n'appartiendra pas au lignage et pose un problème en termes de filiation et en termes d'héritage, ou même d'héritage de la chefferie, d'héritage des biens, etc. Alors, les dons, ça va être rapide, parce que... Une minute, alors. Une enquête du Togolais, du médecin togolais, le docteur Fiaggio, il a fait une espèce d'enquête de sondage d'opinion, et on était tous surpris, parce que les couples étaient plutôt favorables dans son enquête. 89% des personnes, étaient favorables aux dons, sous réserve que le couple soit marié. À chaque fois, on retrouve quelque chose de très normatif, comme ça. Ou Sylvie en concubinage, 39. Dans les études qu'on a menées, nous, la petite enquête de l'ANR, là, les couples préféraient un don intrafamilial. Il y a l'idée que si je demande à ma sœur de donner les ovocytes, il y aura une meilleure confidentialité. Ou c'est comme si les substances de la famille restaient dans la famille. Il y a l'idée qu'il faut que les substances patrilinéaires restent dans le lignage patrilinéaire. De même, un homme m'a dit au Cameroun qu'il regrettait le temps où les hommes pouvaient, les frères pouvaient aller voir les femmes qui étaient stériles. Quand l'homme était stérile, le frère pouvait venir à sa place pour faire un enfant à l'épouse. Donc il y a l'idée qu'il faut que le sperme aussi reste dans la famille, parce que le recours à un don de sperme est vécu comme un adultère. Et en plus, pour l'étudiante qui était au Sénégal, c'était où l'islam est important, le sperme dans la religion musulmane doit rester celui du mari. Donc on s'aperçoit de l'importance de la... Pardon ? L'ovule aussi, d'accord. Alors, j'ai posé des questions sur le refus, sur l'information de refus d'informer l'enfant, sur ses origines. Alors, les personnes interrogées me disaient qu'il n'était pas question d'en parler à l'enfant, mais j'ai été une fois dans une consultation où j'avais donc le couple, le gamin qui était né de l'AMP, qui avait 2 ans, à tout casser, même pas, 2 ans, disons, oui. Et puis à ce moment-là, le responsable de la clinique est rentré dans le bureau pour chercher un dossier, et puis le père qui venait de me dire qu'il est hors de question d'en parler à l'enfant, il a dit à l'enfant, « Tu vois le monsieur, là ? C'est grâce à lui que tu es là. » Alors, je me suis dit, bon, entre la question qu'on pose et puis ce qui peut se passer, comme toujours, vous devez être sûrement confronté à ce genre de choses, entre la réponse qu'on donne et la façon dont on va se comporter dans la vie quotidienne, il y a une marge que les responsables d'études qualitatives et les médecins aussi, d'ailleurs, doivent intégrer. Et puis, la peur de la sorcellerie, alors... Surtout en Afrique centrale, mon étudiante qui était sur le Gabon, elle a été vraiment confrontée à ça régulièrement, c'est-à-dire que les ovocytes et les spermatozoïdes peuvent être utilisés par les sorciers pour faire du mal, pour détruire, etc. Donc il y a la peur d'utiliser, la peur de l'AMP comme utilisation des gamètes par les sorciers. Alors, ma conclusion en un quart de seconde. Donc, l'AMP étudiée par nous montre une large circulation des acteurs et des savoirs qui est intéressante en termes de connaissances. Hein, c'est d'une acquisition de connaissances. Les dynamiques démographiques, c'était le projet de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, c'était l'objectif, c'était d'appréhender les nouvelles dynamiques démographiques dans le monde et en particulier dans les pays du Sud. Donc là, je n'ai pas développé ça vraiment, mais on s'aperçoit que de la mobilité des couples, que j'ai brièvement évoquée, et d'une diversification des modèles familiaux, que là, je n'ai pas pu développer, et puis de nouveaux régimes de parentalité. Ça, c'est très intéressant, mais là aussi... Bon, des rapports sociaux de sexe aussi modifiés, c'est-à-dire que quand on est centré sur un couple, Là, on est obligé de demander l'avis de l'homme et de la femme, en particulier la femme. Et de fait, ça modifie, enfin, au niveau décisionnel, ça a une incidence sur la relation homme-femme au niveau du couple. On est dans des situations où il y a deux salariés. Tous les couples que j'ai interrogés, il y avait la femme qui était salariée. Donc je pense que ça joue en termes économiques et en termes décisionnels, parce que j'ai eu un certain nombre de femmes où le mari était réticent à l'AMP et c'est elle qui menait le combat. C'est elle qui payait la plupart des frais. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu ce pouvoir de la femme parce qu'elle est salariée, la situation serait totalement différente. Donc quand on parle de pauvres et de riches, il faut savoir qui est riche, hein, qui est riche dans le couple aussi. Hein. Ce n'est pas qui est riche en soi, mais c'est le statut financier de la femme qui lui donne de l'empowerment. Hein. Donc c'est des femmes travailleuses. Et puis, je vous ai dit, le rôle des classes moyennes, parce que c'est important, parce que c'est elles qui amènent des valeurs nouvelles sur comment on doit soigner les enfants, comment on doit les amener à l'école. Ces classes-là qui introduisent des valeurs nouvelles. Donc, il ne faut pas les négliger. Hein. La croissance de la médecine privée, on l'a vu, et la nécessité, alors là, je n'ai pas trop de scrupules à ne pas trop revenir dessus, parce que la journée a été largement fondée là-dessus, et on ne peut pas, encore une fois, traiter de la stérilité sans avoir une approche globale, puisqu'on a vu que ces problèmes venaient de MST mal soignée, chronicisée, qui donne donc cette fécondité. On est dans des pays où l'IVG est interdite, enfin, l'avortement n'est que clandestin, fait dans des conditions dramatiques, quand il tue pas les femmes. Hein. Donc, on ne peut pas raisonner sur l'infécondité si on ne raisonne pas en termes de santé de la reproduction et d'une manière globale. Et puis, communiquer cette situation aux médias, et puis je vous dirais, pour finir, ma dernière phrase, que quand des médecins me disaient « Ah, mais on ne peut pas vous ouvrir nos portes, les femmes ne veulent pas parler. » Vous savez, puis c'est la confidence médicale. Alors, on me disait « Mais nous, on est habitués à travailler. On travaille sur le sida, on travaille sur les anthropologues de la santé, on travaille dans des conditions dramatiques, on est confronté à la vie, à la mort, à la maladie depuis des années déjà. On sait ce que c'est que la confidence, nous. » Alors, ils disaient « Oui, non, mais elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. » Et quand on fait nos enquêtes, moi, quand j'ai travaillé avec elle, elle se levait, puis elle se rasseyait, plein qui me faisaient ça, qui me disaient « Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de parler ?» Et puis, surtout, madame, parlez de nous là-bas. Quand vous rentrerez en France, parlez de nous. Parce que nous, on n'ose pas parler. On n'ose pas aller dans les journaux, la télévision, etc. Donc, c'est pour ça que ça m'a plu. Quand j'ai vu la diapo de Yann avec ces gens qui étaient 1500, là, j'ai vu ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. 1500 qui osaient montrer leur visage, ça, c'est merveilleux, quoi. Donc, il faut les aider à montrer leur visage, quoi. Allez, je vous remercie.